Est-ce que l'audace est le propre de l'éditeur?
Paul ou Tchaïkovski-Lorenz?
Ça devrait. Mais encore, faut-il la sentir, l'audace, la voir. Hein. Il y a des livres qui savent se masquer, il y a des grands auteurs qui savent se masquer, qu'on ne voit pas tout de suite, qu'on ne repère pas, qu'on peut... Voilà, ça exige une espèce de disponibilité, une fraîcheur, quoi, un regard un peu frais.
Ça peut pas faire de mal.
Je suis très sensible à quelque chose qui est de l'ordre de la vérité dans les textes. Non pas parce que ce qui est dit a existé ou est vrai, mais parce que la manière dont c'est dit est vrai et juste. Et c'est cette justesse que j'essaie de trouver dans les textes et c'est ce qui m'agite quand je lis un texte. Ça, c'est juste ou c'est pas juste, ça dit la vérité ou ça ne la dit pas.
Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Ça peut pas faire de mal.
Quel bonheur que d'écrire. Quel bonheur que de pouvoir la nuit, souvent la nuit, s'introduire en soi et dépeindre ce qu'on y voit, ce qu'on y sent, ce qu'on entend que murmurent les souvenirs, la nostalgie ou le besoin de retrouver intact sa propre grâce évanouie dans la réalité, mais bien vivante au fond de soi, vivante au fond de soi et éclairée au loin comme une maison dans la nuit, une maison vers laquelle on laisse guider ses pas, seul, conduit par la confiance, l'inspiration. Ses intuitions renaissantes, par le désir de rejoindre cet endroit qu'on voit briller au loin dans les ténèbres, attirant, illuminé, en sachant que c'est chez soi, que c'est là que se trouve enfermé, au fond de soi, ce qu'on a de plus précieux, son être le plus secret. C'est avec cette ode à l'écriture signée Éric Reinhardt que nous ouvrons ce soir une émission spéciale consacrée à la rentrée littéraire en partenariat avec le Journal du Dimanche. Parmi les nombreux ouvrages sortis depuis fin août, il y a ce très beau roman, donc « L'amour et les forêts », paru aux éditions Gallimard. L'auteur, Éric Reinhardt, nous raconte l'histoire de Bénédicte Ombredane, qui cherche une raison de vivre et un moyen de regagner sa liberté. C'est un étonnant portrait de femme qui fait partie des bonnes surprises des sorties de septembre. Il y en a beaucoup d'autres, nous allons les découvrir ce soir à travers 9 romans sélectionnés par le JDD et France Inter. Qu'ils soient français ou étrangers, ces livres parlent d'art, d'amour, de mort aussi, et ils mêlent souvent la grande histoire à la fiction. Commençons avec un ouvrage qui nous ouvre une page emblématique du cinéma français. Voici « Quiconque exerce ce métier stupide mérite tout ce qui lui arrive », un roman de Christophe Donner, publié chez Grasset. Ce livre doit son titre à une phrase d'Orson Welles. C'est en tout cas ce qu'affirme Christophe Donner qui a choisi de raconter la folle ascension de 3 rebelles du 7e art, le producteur Jean-Pierre Rassam et les 2 cinéastes Maurice Pialat et Claude Berry. Ensemble, ils veulent conquérir le box-office à une époque où la nouvelle vague est en plein âge d'or. On assiste à l'éclosion de leur amitié, à leurs disputes, mais aussi à leurs déchirures. Les premières pages du roman sont notamment consacrées aux jeunes années de Claude Berry, introduit dans le monde du cinéma grâce à Jean-Louis Trintignant. Ami de Pialat, acteur raté, plutôt timide, Berry vient tout juste d'être oscarisé pour un court-métrage intitulé « Le poulet ». Nous sommes en 1966. Le voici un matin dans sa chambre encore endormi. Son père, Hirsch Langmann, artisan fourreur du Faubourg Poissonnière et passionné de cinéma, lui apparaît en rêve. « Debout, mon garçon, il est tard. » Hirsch tire les rideaux. Claude essaie d'ouvrir les yeux, de parler. Impossible. Hirsch regarde un peu partout. La chambre aurait besoin d'un bon coup de balai. Autre chose, la folle, il ne voit plus l'Oscar. La statuette n'est plus sur l'étagère où Claude lui avait confectionné un petit autel. Il regarde partout, jusque dans la poubelle, des fois que dans une des crises de désespoir dont il est coutumier ou sous l'effet de l'alcool, il s'en défait. « Où as-tu mis l'Oscar, Claude ?» Claude essaie d'ouvrir les yeux, mais tout reste flou. Il est ébloui par la lumière, il plisse les yeux pour reconnaître le visage de son père penché au-dessus de lui. C'est le visage d'un homme ravagé par la maladie, une barbe d'une semaine qui n'arrive plus à dissimuler sa maigreur. Il va crever, se dit-il. Ce qui l'apitoie, c'est la tristesse de son père au sujet de la statuette. « Ton Oscar, Claude, je ne le vois plus », répète le vieil homme. On dirait qu'il va pleurer. Claude ne veut pas voir ça. Le vieux le secoue, réclame son trophée. Il gueule comme il a toujours gueulé contre son fils depuis 30 ans, à ses premières chutes, bris de verre, coupures, maladies, mauvaises notes en maths, 0 de conduite. Il n'a cessé de crier sur cet enfant cancre, impossible à éduquer, même à coup de ceinture. Il l'aurait frappé avec le manche du balai si Bailan ne l'avait pas retenu. Ce matin, c'est encore plus déchirant avec ces mots dérisoires qui transpercent les tympans de Claude. L'Oscar ! Merde, papa ! Merde, tu me dis merde ? Je dors. Il est où ? Je l'ai perdu. Nom d'un chien, j'en étais sûr. C'est pas possible. Où est-ce que tu l'as perdu ? Hirsch a toujours cru au génie de son fils. Comme enfant gâté, comme écolier cancre, il y a cru en poulebeau voleur de billes, en petit juif caché sous un faux nom à la campagne, en acteur de Renoir, en écrivain, en pagnol du faubourg Poissonnière. Il a toujours su que la place de son fils était parmi les grands artistes de ce temps, et rien ne l'a rendu plus heureux que cet Oscar. Un triomphe qui n'arrive que dans les rêves. Claude revoit son père quand la statuette est entrée dans l'appartement de la rue du Faubourg Poissonnière. Claude revoit son père malade au bord des larmes, transfiguré par la consécration de son fils. Il pose ses lèvres sèches sur le métal doré, talisman de sa guérison désormais certaine. Le vieux serre l'objet comme un damné, s'y accroche, le couvre de larmes, sans plus se retenir. Pourquoi avoir honte de ses larmes de reconnaissance et de victoire ? Hirsch Langmann a cru en son fils escroc, voyou, il a cru en son fils parricide. Il ne peut pas croire qu'il ait perdu l'Oscar, la samothrace familiale. Debout, Claude, on va le retrouver. Laisse, papa, c'est moche, on s'en fout. C'est toi qui es fou, c'est de l'or. 3 grammes d'or pour 4 kilos de ferraille, on en trouve à 1 000 $ dans les brocantes de Cap Cod. Le vieux accuse le coup, le souffle lui manque, il a froid, son visage se couvre de sueur. Les jambes en coton, il vacille. Et le temps que Claude comprenne ce qui se passe, il s'écroule, renversant le pupitre de Claude dans un fracas de crayons de couleur et de boîtes à compas. « Papa !» Claude a sauté du lit, il prend la tête de son père, essuie son visage glacé. « Papa, arrête. Qu'est-ce que tu fais ?» Combien de fois Hirsch Langmann a-t-il feint cette attaque cardiaque pour amuser ses enfants et faire enrager sa femme ? Et il était bon, théâtral, crédible. C'est pas marrant, là. Arrête. Je t'explique. J'ai fait exprès de la perdre, cette statuette. Je n'ai même pas regardé mes cartes. Tu m'entends ? Réveille-toi, bordel. Ne joue pas à ça. Il n'y a pas plus mauvais acteur qu'un mourant. Son jeu était tellement faux qu'on en suffoque. Arrête ! Hurle Claude qui se réveille enfin pour de bon, ébloui par la lumière froide du soleil d'hiver. Sa mère a tiré les rideaux. Il est midi, mon garçon. Hirsch Langmann est mort et enterré depuis 5 ans. Il n'a pas vu la statuette remportée par son fils. Il n'a pas vu son triomphe. Voici maintenant le portrait d'un autre artiste, musicien cette fois. Bien qu'il ait aussi beaucoup tourné au cinéma, le roman s'intitule « Bye Bye Elvis ». Il est signé Caroline de Mulder et publié aux éditions Actes Sud. C'est le 3e ouvrage de l'écrivain belge qui fait ici se croiser 2 histoires. Celle du King, un homme à l'aube de sa mort, ravagé par les médicaments, et celle d'un vieil Américain, John White, lui aussi mourant. Leur destinée se confond et les montre tour à tour dans leur solitude et leur mélancolie. Mais la romancière revient aussi sur leurs heures de gloire. Celle d'Elvis notamment, à l'époque où sa simple apparition déclenchait l'hystérie des foules. Où qu'il aille, se forme aussitôt un attroupement de petites filles avec des yeux de voyous amoureux. Elles ont des joues de bébé, des yeux de prédatrice, le pas rapide et la jambe longue. Elles le veulent maintenant, et maintenant, tant et tant qu'elles l'étoufferaient des doigts et des bras. Cela commence par quelques voix. « C'est lui ! Non, c'est pas lui ! Si, c'est lui ! » Une émeute d'enfants femelles gronde déjà. Elles sortent de partout. Et suivies de frères et de petits amis jaloux, elles le reluquent avec des yeux d'oisillons de proie. Plus à distance, certaines jettent leurs talons au loin pour courir vers lui plus vite. Foire de Memphis, Elvis, flanqué d'une amie, continue à marcher. Autour d'eux, la foule enfle et plusieurs gamines s'accrochent à ses vêtements. L'une d'elles répète sans arrêt « Promets-moi que tu le feras, promets-moi » sans qu'on sache exactement ce qu'elle veut. À mesure qu'Elvis avance, la foule augmente, lui fait cortège. Il s'arrête à un stand où il faut jeter des balles dans un cerceau. Il veut offrir un ours en peluche à sa compagne. Il gagne du premier coup. La tenancière lui tend l'ours, il se volatilise. Sûrement la drôle de petite fille l'a pris. Ou une autre. Elvis gagne et perd successivement 3 ours qui s'envolent en fumée avant même qu'il y touche. Pendant ce temps, la foule toujours plus nombreuse se presse contre eux et cela devient douloureux, cette rambarde du stand qui leur scie les chairs jusqu'au-dessus des hanches et tout contre les planches, les os leur font bien mal. Finalement, les forains les aident à passer par-dessus le comptoir et tous deux se mettent à courir à toutes jambes jusqu'à l'entrée où une voiture de police les ramène à la Cadillac. Même sur scène, l'amour qu'on lui porte vire à la rage. On ne s'entend plus jouer désormais, tellement la foule hurle, démente, dès qu'Elvis apparaît, ruisselante et aveugle. Les visages sont déformés par la fureur. Scotty et Bill ont beau monter le son et Elvis époumonné, braillé, à s'en déchirer les cordes, à peine si on distingue de loin en loin le batteur, pourtant particulièrement énergique. Les fausses notes passent inaperçues. Seul compte maintenant la présence d'Elvis et ses déhanchements. Elvis devant improvise. Les autres derrière suivent. Et les musiciens assourdis se vantent d'être le premier groupe au monde dirigé par un cul.
Ça peut pas faire de mal. Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Cover me.
Les femmes sont au cœur du très beau roman de l'américain James Salter. Voici « Et rien d'autre », paru aux éditions de l'Olivier et traduit de l'anglais par Marc Amfreville. C'est l'histoire de Philip Braumann, ancien marine pendant la Seconde Guerre mondiale, qui rentre chez lui et tente de commencer une nouvelle vie. Il y aura les études, les premiers boulots dans l'édition, et puis l'amour et les femmes. Après l'échec de son premier mariage, il rencontre la fabuleuse Christine, dont il tombe vite amoureux. Nous sommes au chapitre 17. Braumann rentre tout juste de son premier rendez-vous avec elle. J'ai rencontré une femme tout à fait extraordinaire, avait-il envie de dire au portier. Et par hasard, il y repensa avec excitation dans l'ascenseur et en rentrant chez lui. Elle était mariée, certes, mais c'était normal. À un certain stade de vie, chacun semble l'être. À un moment donné aussi, on commençait à se dire qu'on connaissait tout le monde, qu'il n'y avait plus personne à rencontrer et qu'on allait passer le reste de sa vie au milieu de visages familiers, des femmes en particulier. Ce n'était pas seulement qu'elle s'était montrée chaleureuse. C'était cela, mais plus encore. Il eut envie de l'appeler, mais c'était ridicule. Elle n'était sans doute même pas encore arrivée dans la rue. Il se sentait déjà impatient. Il allait falloir le cacher d'une façon ou d'une autre. Quand elle accepta de venir déjeuner un jour plus tard, il comprit que tout effort de dissimulation serait vain. Elle paraissait plus jeune qu'il ne l'avait cru. Mais comment en être sûr ? Ils étaient assis face à face. Elle avait le cou d'une femme de 20 ans. Et son visage n'était marqué que par quelques légères rides d'expression dues à son sourire. Il émanait d'elle un charme presque électrique. Il n'aurait pas voulu y succomber, mais comment résister au spectacle de sa gorge et de ses bras nus ? Elle s'en rendait sûrement compte. « Ne te laisse pas enivrer », semble-t-elle lui dire. Il avait tout loisir de l'admirer de près. Sa chevelure noire et lustrée, la courbe de sa lèvre supérieure. Elle tenait sa fourchette avec une sorte de langueur, comme si elle s'apprêtait à la lâcher. Mais elle mangeait de bon appétit tout en parlant, sans se laisser distraire. Son autre main était levée et à demi repliée, comme si elle avait voulu se sécher les ongles. De longs doigts aristocratiques. Il se trouvait qu'elle avait vécu à New York, Waverly Place exactement, avec son mari pendant un certain nombre d'années. « Nous sommes séparés », ajouta-t-elle. « Vous êtes en bons termes ?» Elle sourit. Plus vraiment. Il avait l'impression qu'il pouvait tout lui dire, tout lui raconter. Il existait entre eux déjà une complicité naissante. « Quel âge a votre fille ?» demanda-t-il. Elle avait 15 ans. Il en fut stupéfait. « 15 ans ? Vous n'avez pas l'air de quelqu'un qui pourrait avoir une fille de 15 ans ?» Et avec désinvolture, il ajouta « Quel âge avez-vous ?» Elle fit une petite grimace de désapprobation. « Je suis née pendant la guerre. » Pas au début, cependant. Il songea à son âge à lui, mais elle ne prit pas la peine de le lui demander. Sa fille s'appelait Annette. « C'est une fille merveilleuse. Je l'adore. » « Vous avez des enfants ?»« Non, » répondit-il. Il eut presque l'impression d'avoir chuté dans son estime. Il était clairement plus vieux, célibataire et sans famille. « Si vous en aviez un, comment l'appelleriez-vous »« Je n'y ai jamais vraiment songé. Si c'était un garçon, eh bien, Agamemnon. Et une fille, Quisqueya. C'est un nom péruvien. »« Péruvien, vraiment ?»« Non, je l'ai inventé, confessa-t-il. » En tout cas, ça irait bien avec Brahman. Quisqueya Brahman, eh bien, gardons l'idée en tête. Oui, entendu. Laisse-toi griser. C'était toujours au premier mot, au premier regard, au premier baiser, à la première danse fatale. C'était toujours là en attente. Christine, je te connais, pensa-t-il. Elle lui souriait. Il lui fallut en parler tout de suite à quelqu'un. C'était indispensable, il ne pouvait pas le garder pour lui. Alors il se confia au portier. « Je viens de rencontrer une femme absolument merveilleuse. »« Vraiment ? Content pour vous, Phil. »« Vous ferez sa connaissance avant peu, » eut envie d'ajouter Brahman. Mais il se rendit compte que cela aurait eu l'air d'une parole de séducteur patenté, et puis il n'était pas sûr que cela se produirait. Il regrettait presque d'avoir fait cette confidence. Il n'avait cependant pas pu s'en empêcher. L'appartement paraissait lumineux, accueillant. C'était la présence de Christine, le début de sa présence dans sa vie.
So the book turned out to be
James Salter.
The story of not only one man,
c'est l'histoire d'un homme, bien sûr, mais aussi d'hommes et de femmes
who came of age
qui
during the war.
Ont connu la guerre.
And what happened to them during
et
life
je raconte
afterwards.
Ce qui leur est advenu après la guerre.
But you can also think of the book in another way.
Mais on peut également aborder ce roman par un autre angle.
The book is almost a mirror image, the main figure, Bowman.
Bowman, mirror image, le personnage principal,
of that young woman
est pratiquement
today,
le reflet en miroir
who is intelligent,
de la jeune femme moderne
educated,
qui est intelligente,
has,
éduquée,
has work or has a career,
qui poursuit une carrière,
but nevertheless cannot find the
mais
right man.
Qui malgré tout n'arrive pas à trouver l'homme de sa vie.
It seems today that appears to be a greater problem
than in the past. Il semblerait
than in the past.
Que cela constitue un problème plus important que dans le passé aujourd'hui, ça.
Comme le héros de James Salter, Gillian, l'héroïne du roman de Peter Stamm, tente de se reconstruire. Dans « Tous les jours sont des nuits », paru aux éditions Christian Bourgois, cette célèbre journaliste est victime d'un accident de voiture. Son compagnon Mathias est mort, elle est défigurée et ne sait pas comment envisager l'avenir. À mesure que les jours passent, elle se remémore son passé et sa rencontre avec Hubert, un artiste peintre pour lequel elle a posé. Pendant qu'il dessinait, il ne disait presque rien, mais l'expression de son visage changeait continuellement. Parfois, il avait l'air fâché, puis soudain, son visage s'éclairait. Hubert fronçait les sourcils, avait l'air concentré pendant un instant avant de se détendre à nouveau. Gillian regarda par la fenêtre. On pouvait voir un énorme tas d'éboulis, sans doute les gravats d'un chantier de démolition. Derrière s'élevait une pente boisée. Le ciel était gris. En dépit de sa position inconfortable, l'esprit de Gillian commença à vagabonder, comme si cette pause forcée éveillait des souvenirs. Elle ne put s'empêcher de penser à ses débuts à l'école de théâtre, son désarroi quand ses professeurs la critiquaient. « Tu joues, » disait-il toujours. « Sois toi-même, montre-toi. » C'était seulement quand elle était totalement épuisée, désespérée, au bord des larmes, que son professeur lui disait parfois « Maintenant, tu étais là. Un instant. » Gillian sortit brusquement de ses pensées lorsqu'Hubert lui demanda de bien vouloir se concentrer. « Ça veut dire quoi ?» répliqua-t-elle. « Je pensais que j'étais juste une coupe à fruits ou une cruche à lait pour toi. »« Une cruche ne regarde pas par la fenêtre, » dit-il. « Tu t'éparpilles. » Cette fois, Gillian regardait Hubert pendant qu'il peignait. Il travaillait maintenant avec un pinceau, et à en juger par ses gestes larges, il était en train de faire les contours. « C'est impossible de mettre un objet en trois dimensions sur une toile plane, » dit-il. « L'objet, c'est moi ?» dit Gillian. « Je ne sais pas pourquoi on fait ça, » dit-il, comme s'il n'avait pas entendu. « Je n'arrive pas à peindre ce que je vois. Le mieux serait de regarder simplement les gens au lieu d'en faire des portraits. »« Alors pourquoi tu le fais ?» Il soupira, puis il claque des doigts. « Hep ! T'es encore là ?» Changement de décor et de genre avec un formidable roman d'aventure, « L'île du Point Nemo » de Jean-Marie Blas de Robles, publié aux éditions Zulma. Tout commence lorsque le riche Cantrell reçoit la visite de son vieil ami John Sherlock Holmes et de son majordome Grimaud. Ils viennent l'informer que trois pieds droits, tous chaussés de baskets de la marque Ananke, ont été repêchés sur la côte écossaise, tout près de chez Lady McRae. L'affaire se complique quand ils se rendent compte que Ananke désigne aussi un diamant qui a justement été volé il y a peu chez cette même Lady McRae. Il n'en fallait pas plus à nos trois protagonistes pour prendre la route et partir à l'aventure. Après avoir pris le transsibérien, les voici au chapitre 47, quelque part dans le Pacifique, à la recherche du fameux Point Nemo, une île qui pourra peut-être leur donner la solution à toutes leurs questions. Il était presque 8 heures lorsqu'ils commencèrent à avancer vers l'île. L'océan était toujours aussi calme, mais il se confondait avec le ciel dans une morne grisaille aux reflets d'étain. Très basse sur l'eau, la ligne de côte laissait croire à un atoll assombri par l'approche d'une tornade. Le baromètre avait chuté durant la nuit. Debout à la barre de gouvernail, les yeux fixés sur le rivage, M. Ward eut le bon goût de garder son inquiétude par-devers lui. Un air glacial laissait comme du givre sur les lèvres. Cantrell, Holmes, Kim et Grimaud s'étaient mis aux avirons. Tandis qu'ils nageaient de l'avant dans une étrange atmosphère de recueillement, Sanglard, penché sur la lisse, examinait les fonds marins à l'aide d'un seau vitré. Polystyrène, Nemopilena, rhodoïde, énonçait-il à haute voix pendant que Mardrus, qui avait accepté cette fonction fastidieuse de greffier, notait ses propos dans un carnet à toute vitesse. Nemopilena, éthylène, je crois. Charybdéide, polystyrène encore. Nemopilena partout. Pas de corail, rien. C'est impensable, il n'y a que de la matière plastique et des méduses. Il y avait surtout des méduses, et parmi les plus venimeuses connues. Au fur et à mesure de leur approche, leur regard se prolongeait sur une plaine herbeuse, à peine surélevée en pente douce. Une steppe triste et monotone, cloquée de buttes vert jaune où l'on ne distinguait ni arbres ni broussailles. Clairsemée sur le rivage, quelques phoques et une colonie de manchots leur témoignèrent une parfaite indifférence. Au moment d'aborder, le vacarme assourdissant des oiseaux de mer, pétrels, sternes et cormorants pour ceux qui leur étaient connus, sembla s'accroître d'un cran. Ils débarquèrent sans trop de difficultés, dérapant sur les méduses à demi décomposées. Leur programme consistait à explorer l'île toute la journée, puis à rentrer à bord avant le coucher du soleil. Tout en se préparant, Sanglard donna quelques instructions sur la façon de se comporter avec les animaux. Il n'y avait rien à craindre d'eux, à condition de ne pas les importuner. Pas même les dragons de Komodo, bien qu'ils fussent capables de courir à 20 km/h et que leur morsure fût toxique. « De toute façon, nous avons les fusils !» fit Miss Sherrington, achevant de déballer un faisceau de carabines à répétition. Leur cheminement se révéla plus difficile qu'ils ne l'avaient escompté. Quand bien même ils donnaient l'impression visuelle d'une terre ferme, le terrain camouflait des traîtrises insoupçonnées. Là où l'on eût juré qu'on pouvait prendre appui, le pied s'enfonçait parfois d'un demi-mètre, chaque pas révélant de nouvelles embûches. Ils ne parvinrent au sommet du plus haut des monticules visibles qu'après 3 heures d'une progression harassante. Une fois en haut de ce qui méritait pas même d'être appelé une colline, ils eurent enfin l'aperçu qu'ils espéraient. L'île, car c'était bien une île, ils n'en avaient jamais douté, avaient la forme grossière d'une spirale dont ils occupaient au sud l'extrémité externe. Avec ses doux vallonnements où s'ouvraient de loin en loin de blanches écorchures, l'ensemble évoquait un vaste terrain de golf, ou pour être plus exact, une décharge publique qu'on se serait échiné en vain à réhabiliter sous ce déguisement. Toujours aussi excessif dans le sarcasme, Cantrelle résuma cette pénible impression en disant que l'île ressemblait à un tourbillon de cochonneries autour d'une bonde déviée. Dans la minute qui suivit, il y eut une saute de vent du nord-ouest au sud-ouest qui mit Ward sur le qui-vive. Il s'apprêtait à prendre la parole pour les avertir qu'ils devaient de toute urgence regagner le bord lorsque Litterbug se manifesta soudain. « Regardez !» s'exclama-t-il. « Là-bas, un navire !» Toutes les têtes se tournèrent vers l'endroit qu'il désignait. Ils virent en effet un deux-mâts courir avec grâce vers le nord. Mais il fallait toute l'incompétence de l'inspecteur, d'autres diraient l'insigne stupidité, pour n'avoir pas reconnu leur bateau, le Black Orpheus, qui s'éloignait de l'île, toute sa voilure dehors. Quelle bande d'incapables, fit M. Ward les poings serrés. Pétrifiés de stupeur et d'impuissance, tous ne purent s'empêcher de fixer la goélette jusqu'à ce qu'elle s'efface de leur vue, chacun d'entre eux prenant conscience de ce que signifiait la fuite du navire. En l'espace de quelques secondes, voilà qu'ils avaient été rétrogradés du rang d'explorateur à celui de naufragé. Restons sur une île, mais un peu plus au nord cette fois, dans la mer Blanche, à Solovki. Et c'est Olivier Rollin qui nous emmène là-bas, au large de la Russie, avec son roman « Le météorologue », paru aux éditions Seuil. Dans ce livre, il se penche sur le destin d'un Ukrainien, bon père de famille et victime de la terreur stalinienne. Il s'appelle Alexei Féodosievitch Vangenheim. Il était passionné par le ciel et les nuages et il a été déporté au goulag de Solovki en 1934. Pendant ses années de camp, il écrit beaucoup à sa femme, Varvara Ivanovna, et envoie des dessins à sa petite fille, Eleonora. Il sera exécuté en 1937 comme des milliers d'autres anonymes. Olivier Rollin s'est rendu sur place, là où il a trouvé la mort. Voici un extrait du chapitre 5 de la deuxième partie du roman. Le lieu s'appelle Sandarmor, prononcé Sandarmor, nom qui signifierait le marais de Zakhari, dans un mélange de russe et de carélien. Sur un rocher à l'entrée du site, aujourd'hui cette seule inscription. Люди, не убивайте друг друга. Hommes, ne vous tuez pas les uns les autres. Je ne connais pas d'inscription plus juste que celle-là, si rigoureusement simple, sans aucune mention politique, religieuse, historique, sans invitation à la vengeance ni même à la justice, en appelant seulement à la loi morale. Il y a plus de 360 fosses dans la forêt, de taille variable. Plus de 7000 personnes ont été exécutées ici entre 1934 et 1941, dont les 1111 du convoi de Solovki en 5 jours. Il y a de discrets monuments aux morts, polonais, juifs, musulmans, lituaniens, ukrainiens, mais surtout, sous les hauts troncs gris et rouges des pins qui feuillettent la lumière, l'autre futaie, plus basse, des goulopski, les pigeonniers. Un poteau de bois fiché en terre, surmonté d'un petit toit à double pente pour abriter la colombe de l'âme. Cloué sur le poteau, la photo du mort, qui est parfois une morte, comme cette belle Nina Zakharovna Delibache au regard farouche. Une économiste géorgienne fusillée le 1er novembre 1937 à l'âge de 34 ans. Il est injuste sans doute que la beauté d'une fusillée augmente soudain l'émotion qu'on éprouve à croiser ses regards assassinés, mais c'est ainsi, il faut le reconnaître. Visage de la forêt des fusillés. Tous parlent de la vie d'avant, pas grande sans doute, mais vivable, abritant un espoir d'amour, de famille, de promotion, de justice, une vie qui n'avait pas encore saccagé l'incompréhensible violence de l'État. Ivan Alexeïevitch Vassiliev en casquette de soldat. Dimitri Trofimovitch Kochanov, un homme jeune, cravaté, à l'air timide, les cheveux brillantinés. Alexei Sergeïevitch Sergeïev, qui ressemble un peu à Faulkner, en plus sympathique. Alexandre Alexeïevitch Vlasov, Andrei Sidorovitch Yefimov, Yefim Porfirovitch Diki, Anton Iosovitch Nijinsky. Et puis Alexei Féodosievitch Vangenheim, météorologue. Les fleurs artificielles jettent de vives taches de couleur parmi tous ces morts. Rumeur du vent dans les hautes cimes des pins, chants d'oiseaux, aucun autre bruit. Dans ce lieu paisible aujourd'hui se sont déroulées des scènes infernales. Isolateur de Medvegorsk. Combien sont-ils dans les cellules, je ne sais pas. On appelle son nom, Les gardes le mènent dans une baraque où l'on révèle son identité. Nom Vangenheim, prénom Alexei, patronyme Féodosievitch, né le 23 octobre 1881 à Kraprivno, gouvernement de Tchernikov, République socialiste soviétique d'Ukraine. Combien de fois a-t-il répondu à ce questionnaire depuis le jour, il y a presque 4 ans, où Gazov et Chanine l'écrouaient à la Loubianka? On le fait se dévêtir, c'est pour une visite médicale. On le pousse dans une autre baraque. Et là, des sbires lui saisissent les bras, les retournent dans le dos, lui lient les poignets, le jettent à terre, lui entravent les jambes. S'il avait encore des doutes sur le sort qui l'attendait, c'est peu probable, à cet instant, il sait que le parti en lequel il mettait toute sa confiance, dont il s'interdisait de désespérer, va l'abattre comme un animal de boucherie, lui et tous les autres. C'est peu probable et en même temps, il est impossible qu'il ait jamais pu imaginer cette infamie. On lui ôte son alliance. Il essaie peut-être de résister, alors les tueurs le frappent à coups de ce casse-tête nommé Kolouchouka, qu'a fait fabriquer Medveyev, ou encore d'une sorte de piolet qui est l'instrument de travail de Bondarenko. On le traîne dans une salle où sont déjà allongés d'autres corps ligotés, certains ensanglantés, lingots de chair humaine. L'homme est le capital le plus précieux, a écrit le camarade Staline. Lorsque le chiffre est atteint, une cintaine, on les jette dans la benne de 2 camions. Les gardes les tassent à coups de bottes, étendent sur une bâche, s'assoient dessus, les camions démarrent. Corps nus, collés les uns aux autres, entravés, piétinés, sanglants, tremblants de froid et d'horreur. Voilà la fraternité incontestable dont a accouché la Révolution. Ce genre de pensée lui traverse-t-il l'esprit ? Pense-t-on à quelque chose lorsqu'on est mené, lié à l'abattoir ? On est au début de novembre, sans doute la première neige est-elle tombée. Le lac Onega doit être en train de geler. Les camions avancent lentement, cahotant sur la mauvaise route, puis sur la piste en terre. Phares tressautant dans la nuit, ils mettent près d'une heure à arriver à destination. Dans la forêt, un grand feu brûle autour duquel les hommes du NKVD se réchauffent, fument, boivent de la vodka, plaisantent. Ils ne sont pas impressionnés, ils ont l'habitude. Ils travaillent pour les camps du canal, et le canal est un grand mangeur d'hommes. Ils ont creusé plusieurs fosses, pas très grandes, 3 ou 4 mètres sur 2. Ils sont une vingtaine, il y a d'autres camarades un peu plus loin. Certains sont ivres. Il y a d'autres fosses un peu plus loin, fraîchement refermées. La terre retournée fume encore dans l'air froid. Le feu fait danser de grandes ombres sous les arbres, des tourbillons d'étincelles montent entre les troncs. Les gardes descendent des camions, demandent du monde pour décharger. Il faut se dépêcher, on n'a pas de temps à perdre. Les camions doivent retourner à Medvedjegorsk pour une autre fournée. Ils ne seront pas de retour avant 2 heures. On tire les suppliciés, on les fait tomber des bennes, comme des rondins. On les traîne par terre. Ils sont nus ou en linge de corps. Les bourreaux ont des vestes ouatinées et des chapkas. Ils se moquent d'eux comme les hommes bien vêtus peuvent se moquer d'hommes nus. Comme ceux qui vont vivre et tuer peuvent se moquer de ceux qui vont mourir. Comme les centurions romains se moquaient du Christ. Les chiens aboient, excités. Le capitaine Medveyev finit sa cigarette, jette le mégot dans le feu, boit un coup de vodka, s'essuie la bouche, saute dans la fosse et arme son agant. Dans son nouveau roman, Paul Harding s'attache aussi à décrire le bouleversement de la vie d'un homme qui, d'un jour à l'autre, perd tout ce qui lui était cher. Voici Hénon, publié aux éditions du Cherche Midi dans une traduction de Pierre de Marty. Charles Crosby vit tranquillement dans cette bourgade de la Nouvelle-Angleterre avec sa femme et sa fille Kate. Un jour, Kate a un accident de vélo, elle meurt. Dès lors, Charlie ne sera plus jamais le même. Il vivra à travers ses souvenirs et son bonheur passé. Il se remémore par exemple un moment particulier, un jour où Kate était encore petite, il lui avait mis quelques graines dans le creux de sa main et les oiseaux étaient venus se poser sur elle. Kate ne quittait pas des yeux les oiseaux bondissants. Ils étaient 5 à présent. Elle a tendu de nouveau la main. La même mésange est revenue se poser sur la même branche. Et cette fois, Kate n'a pas flanché quand elle a foncé droit sur elle. L'oiseau s'est agrippé à ses doigts, s'est mis à fouiller dans le tas de graines à petits coups de bec, en a choisi une qui lui faisait plaisir, puis est reparti avec à tire-d'aile dans l'arbre. « Papa ! Papa, t'as vu ça ?»«
J'ai vu, j'ai vu. »
Reste bien immobile et t'en auras plein d'autres. Alors Kate est restée là, debout, presque comme une statue, tandis que les mésanges, par dizaines à présent, voltaient à tour de rôle des aulnes au creux de sa main. Un quatuor de passereaux, pépiant et surexcité, a débarqué. Ils ont réussi à chipper une ou deux graines chacun à Kate. Juste avant que le bras de Kate ne lâche, un minuscule oiseau jaune a émergé d'entre les roseaux du marais. Il s'est posé au sommet d'une massette qui oscillait comme le pendule d'un métronome. Kate a tourné la tête vers moi et m'a demandé en murmurant « Je peux arrêter, papa ?» Et à cet instant précis, le petit oiseau jaune est venu se percher au bout de son index. Je le lui ai indiqué en pointant le doigt. Kate a regardé sa main. L'oiseau ne semblait pas avoir remarqué les graines. J'en avais encore jamais vu d'aussi petit à part des colibris. Mais ce n'était pas un colibri. Ce n'était pas non plus un pinson, ni une fauvette, ni un roitelet. Je n'avais jamais vu pareil oiseau, ni dans les bois, ni dans les champs, ni dans aucun livre. Kate le regardait et souriait. Il s'est mis à chanter une petite mélodie coulante, comme du vif argent, si claire et fluide, qu'on lui dit jaillit de nulle part, vibrant dans l'air l'espace d'un instant avant de se dissiper sans laisser la moindre trace. L'oiseau est resté encore quelques instants sur le bout du doigt de Kate, puis il est reparti dans les roseaux d'un froissement d'ailes. J'ai sorti ma paire de jumelles pour essayer de l'apercevoir encore une fois, mais je ne l'ai pas retrouvé.
Guillaume Gallienne sur France Inter.
Un peu de lecture, ça peut pas faire de mal.
It's a wonderful life, it's a wonderful life. Traversing tears from the heavens. My heart is a melodrama in fact. Satellite by echoes of pain 24/7, 24/7. I dream, I smile, I walk, I cry. I dream, I smile, I walk, I cry. You might not say that it's a wonderful world, and it's a wonderful life. And it's a wonderful day, just as yesterday. But I won't complain. No, I won't complain. Oh, my good days are far gone. They'll surely come back one more. So I won't complain. No, no. My mind is a mirror.
La mort hante l'esprit de Emda Horovitch, l'héroïne nostalgique de la romancière israélienne Zeruya Shalev. Son livre s'intitule « Ce qui reste de nos vies ». Et il apparaît aux éditions Gallimard, collection du monde entier, dans une traduction de Laurence Sendrovitz. Plusieurs voix se croisent dans ce roman qui parle avant tout d'amour filial. Emda a deux enfants, Avner et Dina. Si elle est proche de son fils, elle l'est moins de sa fille. Celle-ci vient la voir à l'hôpital alors qu'elle est alitée et mourante. Mais Emda, à demi-consciente, est trop faible pour se rendre compte de sa présence. Dina reste donc silencieuse, réfléchissant à sa propre vie, et à ce désir qui se fait de plus en plus fort, avoir un enfant. « Tu es vivante ? Dis-moi vivante ?» supplie-t-elle, étonnée de constater combien il est difficile pour une néophyte comme elle de différencier la vie de la mort. Soudain, elle entend les narines de sa mère émettre une faible expiration, et quand elle la serre dans ses bras, elle la voit soulever ses paupières fripées et l'entend murmurer. « Dors, tout va bien !» sanglote Dina, qui est perdue de reconnaissance, pose la tête dans le creux de l'épaule maternelle dont les os sont si friables qu'ils risquent de s'émietter sous son poids. Pourtant, elle voudrait rester ainsi pour l'éternité. La peur de l'avoir perdue a balayé toute pudeur et elle serre les bras autour de cette poupée de cire chiffonnée, enveloppe vide qui peut donc à présent se remplir de n'importe quel contenu en fonction de besoins, que Dina découvre soudain aussi violent qu'embarrassant. Ne lui manquait plus que d'entourer de ses lèvres le mamelon et d'essayer d'y téter le goût de vivre qu'elle a perdu. Abreuve-moi de ton lait gris, maman, de ce qui donne la vie. La gêne l'oblige à s'écarter. Elle s'arrache carrément à ce lit qui dégage une odeur de moisie, pose les pieds sur le sol et s'éloigne en chancelant. Toutes ses articulations craquent de douleur et elle a très envie de vomir. S'éloigner de là au plus vite, de cette chambre qui n'est plus sa chambre et de ce lit qui n'est plus son lit. Il est midi et elle ignore totalement ce qui se passe chez elle. À quelle heure Amos est-il rentré? Qu'a-t-il fait? L'écuelle du chat est-elle pleine? Elle se rince le visage. Le petit miroir de la salle de bain ne lui renvoie que son front, ses yeux et la racine de son nez. Souvenir de l'époque où sa mère la dépassait, où la différence de taille et de statut se reflétait aussi dans l'image que renvoyait cette glace dont la hauteur en réalité ne convenait à personne. Pourtant, aucun d'entre eux n'avait pensé acheter un grand miroir capable de les contenir tous les quatre. Elle voit les cercles violets qui entourent ses yeux. Elle a les cheveux secs et emmêlés, ses joues creuses se révèlent au moment où elle s'étire. Elle s'humecte la bouche de sa langue, sur sa lèvre supérieure plane une esquisse de ridule. Ce miroir a toujours été intransigeant avec leur visage, comme s'il prédisait l'avenir ou devançait son temps. À présent, elle s'attarde face à lui, se rince la figure à plusieurs reprises. Croit-elle que l'eau froide va lui lisser la peau? Voilà des années qu'elle ne s'est pas examinée avec autant de soin. C'est pénible. Regarde-toi. Tu songes vraiment à pousser un landau dans la rue, avec cette ride entre les sourcils et la fatigue que dégagent tes yeux? Ce n'est plus ton âge. Laisse donc cela à tes charmantes élèves dont la peau rayonne et le regard pétille. Toi, ton regard reste terne. Elle se penche à nouveau, mais carrément la tête sous le robinet. Tu dois te contenter de ce que tu as et dire merci. Il a raison, Amos. C'est de la provocation, de la pure folie. Crois-tu qu'un petit enfant te rendra ta jeunesse? Crois-tu qu'il t'apaisera? Et pour conclure, voici un extrait d'un roman colombien, Les Réputations, de Juan Gabriel Vázquez, paru au Seuil dans une traduction d'Isabelle Guignot. Mayarino, caricaturiste de renom, vient d'être honoré par son pays pour l'ensemble de sa carrière. Mais la visite inattendue d'une certaine Samantha l'oblige à se replonger dans un passé qu'il aurait préféré oublier. Cette jeune trentenaire vient un jour le voir pour lui demander de l'aide. Il y a 28 ans, Samantha, encore adolescente, avait été invitée par Béatrice, la fille de Mayarino, à une fête que son père organisait chez lui. Durant cette réception, les deux jeunes filles avaient un peu trop bu et Samantha a été retrouvée plus ou moins consciente et très déshabillée dans une chambre de laquelle sortait le député Adolfo Cuellar. Suite à cet incident, tout le monde a conclu à l'agression sexuelle. L'affaire a été enterrée, tout comme Cuellar, dont la carrière a été détruite et qui s'est finalement suicidé en partie à cause d'une caricature de Mayarino qui n'avait à l'époque aucune preuve de sa culpabilité. Samantha a grandi. Elle veut savoir ce qu'il s'est exactement passé. Mayarino sait qu'il va devoir faire face à une vérité qu'il n'est peut-être pas prêt à entendre. Extrait de la troisième partie du roman. Au milieu du petit groupe de passants qui s'apprêtait à traverser l'avenue, Mayarino songea à ce qui allait bientôt survenir. Rodrigo Valencia avait peut-être raison. Chercher à en savoir davantage était une erreur lamentable, la pire que Mayarino puisse commettre. Valencia ne s'était peut-être pas trompé dans ses prédications, et s'il parlait à la veuve de Cuellar ou écoutait la conversation que Samantha aurait avec elle, il découvrirait en sortant un monde changé, un monde où il ne serait plus celui qu'il était à présent. Après cette entrevue, et quelle qu'en soit la teneur, quels soient les mots échangés, l'armée de ses ennemis lui fondrait dessus sans pitié. Des chacals, ils étaient tous des chacals qui avaient attendu leur vie durant cet aveu de vulnérabilité. Parce qu'ils le sauraient, ils l'apprendraient fatalement, quelle que soit la teneur de l'entrevue, quels que soient les mots échangés. Peu importait les révélations que leur ferait la veuve de Cuellar, peu importait qu'il y ait une révélation, qu'elle les flanque dehors en criant, sans ménagement, sans rien leur avoir appris, peu importait qu'elle refuse de parler, qu'elle exerce la terrible vengeance du silence, un silence qui meurtrirait Samantha et serait pour elle le pire des affronts, l'humiliation suprême. La situation était déjà embarrassante pour la jeune femme, mais après avoir connu le trouble, après s'être montrée audacieuse et avoir affronté ses souvenirs, Se voir opposer le silence serait la pire des humiliations. Même si l'entrevue se soldait ainsi, les chacals le sauraient et partiraient à l'assaut, car les faits passés, songea Mayrino, comptaient moins à leurs yeux que l'incertitude actuelle du caricaturiste et de ce qu'elle révélait. Il l'humilierait lui aussi, il ne leur en faudrait pas davantage, il se contenterait d'une question, la question simple qui se dessinait peut-être en ce moment sur les lèvres de Samantha, qu'elle avait peut-être répétée toute la matinée, choisissant ses mots et ses intonations, choisissant jusqu'à l'expression de son visage afin de ne pas paraître trop désarmée. En décidant de sa tenue aussi, songea-t-il, car elle l'avait très certainement choisie en tenant compte de la question qu'elle allait poser à la veuve Cuellar. Le résultat pouvait varier du tout au tout. Elle avait au moins une chance sur deux de connaître la vérité. Pour lui, c'était différent. Quoi qu'il arrive, ses ennemis depuis 40 ans le montreraient du doigt à la sortie, excitant une foule en délire, prête à faire son procès sommaire et à le brûler sur le bûcher changeant et capricieux de l'opinion publique. Mayrino serait alors un calomniateur, ou plus simplement un irresponsable, coupable d'avoir détruit la vie d'un homme, ou plus simplement accusé d'avoir abusé en toute impunité de son pouvoir médiatique. À présent, il comprenait mieux ce qui s'était passé 28 ans auparavant, quand il avait pris plaisir à humilier Adolfo Cuellar. Il comprenait la ferveur avec laquelle le public avait accueilli cette humiliation, une ferveur masquée par l'indignation ou l'incrimination. Il s'était contenté de mettre le mécanisme en marche. Oui, il avait allumé le feu et s'y était ensuite réchauffé les mains. Maintenant, c'était son tour.
Ça peut pas faire de mal.
Cette émission a été réalisée par Xavier Pestugia avec à la technique Régis Nicolas. Elle a été préparée par Estelle Gap, Laura Elmaki et Irène Menahem. Un grand merci à Anne-Julie Bémon, Marie-Laure Delorme, Nicolas Demorand, Laetitia Favreau, Alexandre Fillon, Christine Siméon et Augustin Trapenard qui ont choisi pour nous ce soir ces 10 romans de la rentrée littéraire. La semaine prochaine, place au théâtre, avec une émission spéciale consacrée au Festival d'automne. Bonne soirée.